Les timbrés.
Les timbrés. Michel Soulier.
Association philatélique montpelliéraine. Les timbrés, Michel Soulier.
Michel Soulier, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons partir à l'international. Les services postaux des agences internationales, alors jusqu'en 1948. Vous êtes un homme de l'histoire, Michel.
Oui, mais j'irai plus loin que 1948.
Ah, 1948, un peu plus loin. Ah, ben vous dépassez les bornes.
Ah non, mais 1948, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Et là, mais vous allez aller jusqu'à quelle
jusqu'à nos jours.
Jusqu'à nos jours, on ne s'arrête pas. Jusqu'à
non,
l'OPEX.
Non, il ne faut pas mollir.
Oui, il ne faut pas mollir. Allez, c'est parti alors.
Alors, déjà, la philatélie des organisations internationales, c'est quelque chose de relativement curieux au niveau des services postaux, hein, puisque ce ne sont pas, par définition, des États. Mais une seule organisation internationale est dotée, en fait, d'une administration postale propre, hein, et qui émet des timbres spécifiques. C'est l'administration postale des Nations Unies qui a été, pas les Nations Unies, mais l'administration postale qui a été créée en 1951. Alors, avant...
Oui, en 1919.
Qu'est-ce qui s'est passé avant?
Oui.
Bon, avant, le traité de Versailles a mis en place la Société des Nations, la SDN, et la SDN devient opérationnelle dès 1920. Et elle va avoir notamment en charge la résolution des conflits de frontières suite au traité. Et elle va organiser les référendums, elle organisera des administrations transitoires dans ces territoires et même dans certains pays dont elle va confier le mandat à certains des pays victorieux. Bon, ça a été le cas notamment de la France, de la Belgique, etc.
On a déjà un peu parlé de cette thématique dans une émission précédente.
Oui,
mais c'est une thématique qui vous intéresse,
Ça joue un peu aussi en philatélie, puisque là, on va avoir effectivement des timbres avec des surcharges, des courriers particuliers, etc. La SDN, malheureusement, a été incapable d'éviter le deuxième conflit mondial. Et elle sera dissoute en 1946 et remplacée, bien sûr, par l'Organisation des Nations Unies, dont le siège a été fixé... le siège de la SDN avait été fixé à Genève. Le siège des Nations Unies sera fixé à New York. Alors... Oui, c'est vrai que la SDN n'a pas permis d'éviter la Deuxième Guerre mondiale et souvent on la regarde un peu avec mépris et ça c'est une erreur parce qu'en dehors de cet échec, elle a eu beaucoup de réussites et finalement elle a marqué très, très profondément l'histoire de l'entre-deux-guerres. Alors, la SDN, proprement dite, n'a pas eu, comme les Nations Unies, une administration postale propre. Hein? Et donc, elle n'a pas émis de timbre propre. Et c'est son pays hôte, donc c'était la Suisse, qui va assurer le service postal. Cependant, la Poste helvétique, dès 1922, va émettre des timbres de service pour la SDN en surchargeant des timbres courants. Et ces timbres ne pourront être utilisés que dans les correspondances qui sont postées dans le bureau de la Poste Suisse au siège de la SDN ou des organismes indépendants. Hein. Ces timbres ne pouvaient pas être vendus neufs au public. Donc, on en trouve des timbres neufs, mais c'est passé par des circuits qui ne sont pas les circuits de vente au public. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement de trouver des courriers de cette époque-là affranchis avec ces timbres. Et donc, on va trouver des timbres qui sont surchargés, Société des Nations, Courrier de la Société des Nations, SDN, Bureau International du Travail, Il faut se rappeler que le BIT, le Bureau international du travail, est en fait le secrétariat de l'Organisation internationale du travail. Bon, ça c'est ce qu'on va trouver essentiellement comme timbre de service à la SDN. On va arriver donc jusqu'en 1946, dissolution de la SDN, mais dès octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies voit le jour. Elle est donc appelée à remplacer la SDN. Alors, le siège est basé à New York, même si certains des organismes qui dépendent des Nations Unies gardent leur siège à Genève, tel que le BIT d'ailleurs, le Bureau international du travail, ou le Bureau international de l'éducation, reste à Genève et continue à utiliser des timbres de service émis par la Suisse. Alors, jusqu'à l'implantation d'un bureau de l'administration postale des Nations Unies à Genève, qui aura lieu en 1969, donc la Suisse assure le service postal en fournissant des timbres. On va trouver notamment des surcharges plus spécifiques qui sont destinées aux différents organes des Nations Unies. On va trouver des timbres qui vont être surchargés, bon, pour le BIT, on l'a dit, mais pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et des timbres des Nations Unies pour l'Office européen.
Donc ça, c'est des départements, finalement.
Voilà, ce sont
les Nations Unies.
Ce sont des organisations dépendantes des Nations Unies. Hein? Bon, on va aussi trouver des timbres qui vont être utilisés par l'Union postale universelle, etc. Bon. Après l'installation donc de l'administration postale des Nations Unies, on va donc avoir ouverture d'un bureau à Genève. On va avoir également ouverture d'un bureau à Vienne. Et donc, on va avoir trois bureaux, trois offices dépendants de l'administration postale des Nations Unies. Alors, au début, bien sûr, on n'a eu que des timbres libellés Nations Unies, en plusieurs langues. Hein. Au démarrage, les timbres des Nations Unies étaient libellés en anglais, en français, en russe, en espagnol et en chinois.
Pas en allemand.
Sur tous les timbres, ça figurait Nations Unies écrit dans ces cinq langues. Par la suite, on a diminué le nombre de langues, et puis dès que les offices dans les trois grandes villes ont ouvert, les émissions ont été libellées dans la langue du pays qui hôte. C'est-à-dire qu'on aura des timbres en anglais, on aura des timbres en français et on aura des timbres en allemand. L'administration postale des États-Unis est la seule administration postale au monde qui émet des timbres dans trois monnaies différentes. En effet, elle va utiliser les dollars à New York et donc libeller les timbres en dollars américains. Elle va utiliser les francs suisses à Genève et elle va utiliser d'abord les shillings puis les euros quand l'Autriche a intégré l'Union européenne à Vienne. Et c'est une particularité unique. Hein? Alors, depuis la mise en place de l'administration postale, les timbres ne sont plus des timbres de service. Ce sont des timbres à part entière. Et du coup, ils sont utilisables, même s'ils ne sont utilisables, disons, que sur du courrier posté dans les agences des Nations Unies, par contre, ils peuvent être achetés par le public. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu exploser la collection, en fait, des timbres des Nations Unies.
Dès que ça a été disponible pour le public, voilà. La collection explose.
Voilà. Et oui, tant que c'était extrêmement réduit, ouais. C'était très difficile. Il faut savoir que plus de 1250 timbres ont été émis à ce jour par les trois offices. Hein? Les premières émissions, comme je vous l'ai dit, portent des légendes dans cinq langues, puis ça sera réduit. Et actuellement, on a accès aux trois langues et on peut avoir les mêmes timbres, mais avec trois légendes et trois monnaies différentes. Hein? Pardon. Les visuels des timbres ont évolué dans le temps. D'abord, les illustrations étaient essentiellement consacrées à l'organisme lui-même, à l'ONU lui-même, c'est-à-dire les locaux, les drapeaux.
Publicité finalement.
Oui, c'était indirect. Ça, c'était mise en valeur de l'organisme.
Mise en valeur, ouais, du patrimoine. Ouais.
Et également les grandes causes pacifiques mondiales. L'enfance, la lutte contre la drogue, les droits de l'homme, le développement économique, etc. Les grands thèmes. Hein. Les séries de drapeaux des pays membres ont meublé pendant des années les émissions des Nations Unies. Chaque pays a eu un timbre, finalement, avec son drapeau. Alors, pas forcément avec les mêmes légendes, puisque ils ont été émis différemment dans les trois agences. Plus récemment, de nouvelles séries sont apparues, et notamment toujours des séries de drapeaux, mais avec non seulement le drapeau, mais également la monnaie utilisée dans le pays, la représentation d'une pièce unitaire du pays.
C'est enrichi.
Voilà, c'est ça. Hein. À partir des années 1990, par contre, l'environnement et les espèces menacées, ainsi que les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont pris de plus en plus de place dans les émissions. Et actuellement, on trouve de très beaux blocs dans les trois offices, ou de très belles séries de timbres qui abordent ces sujets. Certaines émissions ont été identiques pour les trois agences, sauf, bien sûr, la légende et la monnaie. Et actuellement, par contre, ce sont les thèmes qui sont communs, mais par contre, chaque office a le choix, en fait, de son visuel. Hein. Alors, ça représente en général, les timbres des Nations Unies sont de belles factures, et ça représente une collection extrêmement attrayante. Mmh. C'est vrai que c'est une... esthétiquement très attrayant. Alors, ça, c'est ce qui concerne proprement dit,
les Nations Unies.
Certains pays émettent des timbres spéciaux pour des organismes qui dépendent des Nations Unies et dont le siège est situé sur leur territoire. Et dans ce cas, ce n'est pas les Nations Unies qui émettent les timbres, mais le pays hôte. Mm. Bon, c'est particulièrement le cas pour la Cour internationale de justice qui est à La Haye, hein, et pour laquelle les Pays-Bas ont d'abord émis des timbres courants surchargés pour l'utilisation donc par la Cour, et actuellement, ils émettent même des timbres spécifiques pour la Cour de justice. La France également, qui accueille le siège de l'UNESCO à Paris, émet des timbres pour l'UNESCO. Ils sont libellés France, mais UNESCO.
De façon contractuelle ou quand ça leur chante?
Non. Ils en émettent régulièrement ouais. Notamment quand il y a des changements de tarifs, des choses comme ça. Hein. Mais par contre, le choix du sujet est fait par l'UNESCO. Alors, on est toujours dans le même cas. Tous ces timbres ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur des services postaux installés dans ces organismes. Vous ne pouvez pas acheter des timbres Vous pouvez acheter des timbres de l'UNESCO français, mais vous ne pouvez pas les utiliser sur le courrier en les postant au coin de la rue.
Ah oui.
Non. Si vous voulez poster, il vous faut. Vous pouvez acheter des timbres. Affranchir votre courrier, mais il faut aller le poster au siège de l'UNESCO à Paris.
Bien.
Voilà.
Hein, ça, c'est le septième.
Voilà, c'est clair. Alors, il faut savoir que la philatélie des Nations Unies, outre la collection des timbres émis par l'organisation elle-même, comprend également les courriers et les cachets postaux des assemblées générales, qui se sont tenues notamment avant son installation au siège de New York, à Londres et à Paris, mais également des cachets spéciaux qui commémorent des événements particuliers. Mmh. Alors, c'est de la marcophilie, mais ça fait partie de la philatélie des Nations Unies.
À bientôt.
À bientôt.
C'était Les Timbrés. Michel Soulier, Association philatélique montpelliéraine.